Place Info.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le 8h30 France Info jusqu'à 9h sur France Info, la radio sur France Info, la télé, canal 27 de la TNT. On va parler des syndicats, des relations sociales en France ce matin jusqu'à 9h avec Myriam Ankawa. Bonjour Myriam.
Bonjour Mathéo, bonjour à tous.
Journaliste à la chaîne parlementaire, un duo d'invités, il y en a un, le politologue Pascal Perrineau qui arrive, il est bloqué dans les transports mais il arrive dans un instant en plateau avec nous. Ce matin avec lui, Danielle Tartakovsky, historienne des mouvements sociaux. Myriam.
Bonjour Daniel Tartakovsky. Entre 800 000 et 1,5 million de personnes dans les rues jeudi, une grève qui se poursuit dans les transports au moins jusqu'à lundi et une nouvelle journée d'action et de mobilisation mardi à l'appel de l'intersyndicale. Est-ce que d'abord vous êtes surprise par l'ampleur de cette mobilisation ?
Surprise, non, c'était quand même une hypothèse, bon alors après la virgule près on ne sait pas, mais c'était quand même une hypothèse forte que d'avoir une journée forte.
Vous dites, la réforme des retraites, c'est toujours un sujet qui a démontré une forte capacité de mobilisation. C'est l'un des derniers pôles de conquête de l'État social.
C'est vrai que depuis une bonne trentaine d'années, nous voyons notre État social se détricoter avec une vitesse accélérée et que les retraites, parce qu'elles sont aussi le point d'aboutissement d'une vie, d'une carrière, parce qu'elles sont une des grandes conquêtes de la libération, ont été un élément qui mobilisait entre tous depuis que des atteintes lui sont portées. Rappelons que les premières atteintes, c'est 53 et qu'à partir de 95, on a eu un phénomène d'accélération.
Alors, on va parler de 95, mais vous diriez que déjà, ce mouvement dépasse le cadre strict des retraites. On parle beaucoup de la convergence des luttes. Est-ce que ce mouvement agrège déjà d'autres luttes ou au contraire, parce que la retraite concerne tous les Français, c'est vraiment le mot d'ordre qui inquiète et qui fait descendre dans la rue.
Je crois d'abord effectivement que la retraite agrège tous les Français et que ça, peut-être que le gouvernement n'a pas absolument perçu que par-delà les stratégies qu'il essayait de développer, les Français allaient le penser comme quelque chose de globalisant, d'unifiant et encore une fois comme un des derniers bastions qu'il s'agit de défendre entre tous. Par ailleurs, et nous l'avons vu dans la manifestation d'avant-hier, le temps passe vite, il y a indéniablement des phénomènes d'agrégation, mais toutes les luttes de ces derniers mois, et les Gilets jaunes eux-mêmes, mettent quand même au cœur le problème de la défense du service public. Et nous voyons bien qu'il ne s'agit pas d'agrégation d'éléments épars, mais qu'il y a bien une ligne directrice.
Alors, il y a plusieurs formes de mobilisation, plusieurs formes de mécontentement. Il y a l'hôpital, il y a les retraités, il y a les étudiants, il y a les transports routiers qui organisent des blocages au moment où nous parlons. Il y a les Gilets jaunes qui remettent le couvert aujourd'hui pour un 56e samedi. Les syndicats, dans tout cela, Danielle Tartakovsky, on les avait un petit peu oubliés, ils avaient été dépassés, comme les politiques, par ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que là, vous diriez qu'à la faveur de cette mobilisation contre la réforme des retraites, ils reprennent de la vigueur, ils reprennent des couleurs ?
Moi, je récuse totalement le terme dépassé. Mmh. Il y avait eu un mouvement d'une autre nature, qui est parti sociologiquement sur des bases qui étaient des bases qui n'étaient pas l'espace du travail et sur des revendications qui, initialement, n'étaient pas des revendications concernant l'espace du travail. Donc, je dirais que ça n'était pas leur champ naturel d'action et d'intervention. Et c'est vrai que de la part des Gilets jaunes, et en particulier dans les premières semaines, les premiers actes, il y avait un phénomène de mise à distance. Et je ne pense pas que la mise à distance vis-à-vis des syndicats était de même nature que le phénomène de rejet du politique. Je crois qu'il faudrait nuancer. Bon, quand on discute avec les militants, qu'il s'agisse de Gilets jaunes ou qu'il s'agisse de militants syndicaux, on a bien vu dans la suite de ces 53, 54, 55 et autres actes, qu'on a eu affaire à des relations extrêmement diversifiées d'un point à un autre. Donc gardons-nous d'une lecture univoque.
Mais justement, pour vous poser la question différemment, est-ce qu'il y a du monde dans les rues, ce qu'on a constaté jeudi, ce qu'on constatera peut-être mardi, contre la réforme des retraites ? Parce que de toute façon, comme vous le disiez, c'est un symbole, c'est un sujet qui restera toujours fédérateur. Où les syndicats peuvent s'accorder du crédit sur cette bonne tenue de la mobilisation ?
C'est un peu plus qu'un symbole, hein. C'est vital. Mmh. C'est vital pour le devenir de chacun d'entre nous. Oui, là, on est dans le champ naturel d'action du mouvement syndical, d'un mouvement syndical que peut-être d'aucuns ont enterré trop vite, mouvement syndical dont il faut bien dire que le gouvernement a tout fait pour le priver de tout espace de négociation et par là même d'existence. Et comme je le dis souvent, gardons-nous en termes de mouvements sociaux d'une histoire linéaire. Et on a, de ce point de vue-là, on avait bien, dans les manifestations d'avant-hier, une diversité d'acteurs.
Alors on a beaucoup parlé de 95 et de cette grève par procuration. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une forme de grève par suspicion ? Les Français craignent tellement de se faire avoir avec cette nouvelle réforme des retraites qu'ils n'attendent même pas, au fond, de savoir exactement à quelle sauce ils vont être mangés, si je puis dire, en tous les cas. Quels seront les arbitrages, les contours précis de cette réforme pour descendre dans la rue ?
Ben, ils n'attendent pas. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle, que le gouvernement en parle, avec des propos qui sont à tout le moins contradictoires. Nous savons bien qu'en ce moment, et encore sans doute à l'heure qu'il est, il y a des contradictions fortes au sein du gouvernement sur ce que doit être cette réforme des retraites.
Lesquelles précisément ?
Est-ce qu'il s'agit prioritairement de régler les problèmes de déficit budgétaire ou est-ce qu'il s'agit prioritairement d'une réforme structurelle dont on voit bien qu'elle va tout à fait dans le sens des réformes libérales qui se sont succédées.
Vous qui avez observé les mouvements sociaux de notre histoire, vous diriez que du point de vue de la communication et de la gestion de ce mois, en fait, ces deux mois presque qui ont précédé cette grève, est un ratage complet?
Je dirais que c'est étrange. Ça répond sans doute à des stratégies. Je m'interroge sur le bien fondé des stratégies du point de vue même des intérêts du gouvernement.
Communiquer du gouvernement, encore une fois, Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs disait cette mobilisation elle est étrange parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il y aura dans le texte. Et là, en attendant mercredi et cette présentation exhaustive qu'en fera Édouard Philippe, on ne sait pas encore vraiment ce qu'il y aura dans ce texte. Est-ce que c'est une façon pour l'exécutif de se donner une petite marge encore de concertation et de discussion jusqu'au bout avec les partenaires sociaux, ou vous pensez que ce flou, c'est parce que ils ne savent pas eux-mêmes où ils vont avec ce texte, qui est fondamental?
Ben, deux choses. Il y a quand même, et c'est vrai que ça a un petit peu disparu des propos sur les ondes et dans la presse ces derniers jours, il y a quand même le basculement vers un régime à points qui est une remise en cause fondamentale des logiques qui ont fondé notre État social et la sécurité sociale et le système des retraites. Le mot solidarité circule beaucoup dans la bouche du gouvernement et des différents ministres. C'est une remise en cause fondamentale des formes de la solidarité telle qu'elle s'est construite au lendemain de la guerre. Oui, non, je pense qu'il y a qu'il y a des hésitations et des contradictions où faire passer le curseur. Sans doute y a-t-il par ailleurs, pourquoi mercredi, une volonté, je ne sais pas si elle est, on va dire tactique, de diviser, de fatiguer. Et peut-être de retourner l'opinion publique.
En tout cas, vous restez avec nous évidemment jusqu'à 9h sur France Info, Daniel Tartakovsky. Le politologue Pascal Perrineau vient d'arriver également en studio. On vous retrouve dans un instant. D'abord, on retrouve à 8h41 l'info avec vous, Solène Cressan.
La SNCF prévient prendre un Transilien ou un RER lundi matin peut être dangereux à cause du monde sur le quai et de la grève contre la réforme des retraites. La SNCF et la RATP continuent le mouvement. Un TGV sur 6 annoncé aujourd'hui, un TER sur 10. À Paris, 9 lignes de métro restent fermées. Et depuis tôt ce matin, les routiers sont aussi mobilisés. Une quinzaine de blocages partout en France pour dénoncer la hausse d'une taxe sur le gazole. Barrage filtrant ou opération escargot à l'appel de l'une de leurs organisations. Les Gilets jaunes prévoient aussi un nouveau samedi de mobilisation. Willy Bardon, hospitalisé en réanimation à Amiens, à l'annonce du verdict aux assises de la Somme. Willy Bardon a avalé un produit. Il est dans un état grave, dit le procureur. 30 ans de prison pour enlèvement, séquestration suivie de mort et le viol d'Élodie Kulik. Son avocat veut faire appel. François Bayrou, mis en examen dans l'enquête sur les assistants d'eurodéputés du Modem, le président du parti centriste, principal allié de la majorité, est soupçonné de complicité de détournement de fonds publics. François Bayrou a passé plus de 10 heures dans le bureau des juges d'instruction. 15 personnes, dont des cadres du Modem, sont poursuivies dans ce dossier. Et puis en football, 4-0 pour Lyon hier soir au Costière de Nîmes, 1-0 pour Lille face à Brest. La suite de la 17e journée de Ligue 1 tout à l'heure à 17h30. Montpellier reçoit le Paris Saint-Germain.
France Info. et tout est plus clair.
Le 8:30 France Info ce matin avec Daniel Tartakovsky, historienne des mouvements sociaux, Pascal Perrineau, politologue, enseignant à Sciences Po, auteur du livre Le Grand Écart, chronique d'une démocratie fragmentée chez Plon, et Myriam Ankawa à mes côtés.
Et bonjour Pascal Perrineau. Peut-être bonjour. Pour rebondir sur la manière dont le gouvernement gère et tente au fond de rattraper ces ratages de communication, Édouard Philippe accélère le calendrier des annonces. Il y aura des concertations lundi. On va écouter le Premier ministre, donc on attend au fond de connaître les éléments de cette réforme mercredi. Édouard Philippe qui explique très clairement qu'il y a du grain à moudre. Écoutez.
Ma logique n'est pas et ma logique ne sera jamais celle de la confrontation. La question qui se pose, c'est ces adaptations, ces transformations, voulons-nous les faire brutalement dans l'urgence ou préférons-nous les mettre en place raisonnablement, progressivement, sans brutalité, alors que nous avons le temps.
Nous avons le temps, oui à la concertation, non à la brutalité. Est-ce que, à ce stade du rapport de force, du bras de fer, c'est encore audible ?
Écoutez, il y a, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, des éléments qui ne sont pas du tout contradictoires, mais qui doivent être lus ensemble. Vous avez environ 70% et plus de la population interrogée qui est favorable à une réforme du régime des retraites. Mais une fois qu'on a dit ça, bien sûr, quelle réforme du régime des retraites ? Et au fond, depuis des semaines et même des mois, les incertitudes du gouvernement, la polyphonie qui tournait à la cacophonie des ministres n'a cessé de faire monter l'inquiétude. Et là, on le voit de manière claire, le chef d'orchestre, quel Premier ministre tente de faire en sorte que le gouvernement parle d'une seule voix et rend compte cette demande de réforme du système des retraites qu'il y a dans la population française.
Mais on a beaucoup dit que le flou entretenu par le gouvernement avait un peu fabriqué de l'anxiété dans cette affaire, mais en même temps on a l'impression que la défiance des Français, elle est telle que de toute façon, quelles que soient les annonces, tout sera rejeté. C'est la défiance généralisée dans laquelle on est aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, il y a un système de défiance généralisée qui ne date pas d'aujourd'hui.
On rappelle que vous avez été l'un des garants du grand débat,
oui,
d'ailleurs,
hein, oui,
post-mouvement des Gilets jaunes.
Oui, tout à fait. La méfiance, elle est là, elle est installée vis-à-vis de toutes les équipes gouvernementales, quelle que soit leur couleur. François Hollande en a beaucoup pâti, avant lui Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui Emmanuel Macron.
La parole politique ne peut plus rien.
La parole politique ne peut plus rien, je ne dirais pas ça. Elle est fortement dévalorisée à l'occasion d'un mouvement social, c'est autre chose aussi qui s'exprime. Et c'est cette hostilité au pouvoir en place, telle que on l'a pu le recenser, par exemple, il y a un an, dans le mouvement des Gilets jaunes. Cependant, cette fois-ci, il y a des acteurs syndicaux qui sont revenus au premier plan, qui sont à la manœuvre. Le front syndical n'est pas complètement uni, ça n'a échappé à personne. La CFDT est favorable à rentrer dans un processus qui serait un processus de compromis. Donc il y a peut-être encore une marge de manœuvre, même si cette marge de manœuvre est ténue.
Daniel Tartakovsky, sur ce décalage, cette défiance, cette remise en cause de la parole du politique, sur les Gilets jaunes, on a un grand débat, on a des annonces, on débloque, ce que d'ailleurs les syndicats n'avaient pas obtenu pendant des mois et des mois auparavant, on débloque 17 milliards. Et le gouvernement, d'ailleurs, ne cesse de le répéter, qu'il y a de l'argent qui a été débloqué. Et c'est pareil si on prend l'exemple plus récent de l'hôpital public et des moyens débloqués en urgence, on a ces moyens qui paraissent comme ça colossaux, 17 milliards d'euros, c'est colossal, et des gens dont la situation ne s'améliore pas vraiment au quotidien et qui disent ça ne suffit pas, on ne répond pas à ce qu'on demande, on ne répond pas à nos attentes. Comment vous l'analysez, cette espèce de gouffre, en fait, entre dirigeants politiques et Français ?
Dirigeants politiques et Français, je crois que les Français, en tout cas les salariés, mais aussi les précaires, mais aussi les chômeurs, sont parfaitement conscients au quotidien que tout un système de protection sociale avec lequel nous avons vécu pendant des décennies a été mis à mal. Politique, oui, mais je préférerais les politiques au pluriel.
Oui, je le disais au pluriel.
Dans un ouvrage que nous avons écrit avec mon collègue Michel Margueras sur le détricotage de l'État, et en fait il s'agit évidemment du détricotage de l'État social, c'est un phénomène qui s'est engagé en 82 et qui n'a eu de cesse jusqu'à aujourd'hui. Donc peut-être s'agit-il moins d'un phénomène de rejet du politique ou de dégagisme, pour employer un terme qu'on a beaucoup utilisé, qui ne nous dit pas grand-chose, que de la prise de conscience de ce que les modalités du compromis social qui ont assuré dans ce pays, dans une phase de croissance, il est vrai, nous ne sommes plus dans cette phase de croissance, mais qui ont assuré de la cohésion sociale et de la cohésion politique par là même, sont mises à mal.
Peut-être on va écouter Emmanuel Macron, parce que justement, par rapport à ces Français qui, bien qu'il y ait une réponse politique, ne sont toujours pas satisfaits, le président de la République à Amiens, il y a une semaine, a eu quelques mots, au fond, il appelle à plus d'optimisme.
On a l'impression, si on branche la radio, qu'on allume la télé, que tout est terrible. Enfin, comparons la France aux autres pays, on se rend plus compte. En ce moment, notre pays, je trouve, est trop négatif sur lui-même. On a des difficultés, on les affronte. Est-ce qu'elles sont impossibles à affronter? Pas du tout.
Est-ce que les Français peuvent être sensibles, comprendre ce message-là présidentiel, ou au fond, il est totalement contre-productif?
Dans la conjoncture actuelle, il est difficile pour des gens qui se sentent inquiets par rapport à cette réforme du régime des retraites, par rapport à d'autres réformes qui sont en cours. Il est difficile d'y répondre par la seule remarque que la France, ce qui est vrai, est un pays globalement plus pessimiste quand on lui demande d'envisager son avenir que beaucoup d'autres pays du même type en Europe. Je crains que la réponse soit un peu courte. Cependant, il y a certainement une capacité de mener la réforme pour tout pouvoir politique qui est plus faible en France qu'ailleurs. Pour différentes raisons, il y a des raisons historiques, la tradition du compromis est plus faible en France qu'ailleurs. On gère très souvent les conflits, j'allais dire, de manière plus brutale. On s'oppose et puis ensuite on cherche à négocier. Vous voyez bien, quand on compare par exemple la France et l'Allemagne, la France est de grandes démocraties nordique, on n'est pas tout à fait sur le même mode de gestion du conflit.
Daniel Tartakovsky, pour vous, les mots sont importants, on l'a compris. Sur ce mouvement contre la réforme des retraites et cette fameuse coagulation des mécontentements, vous êtes très prudente sur l'emploi du terme de colère. Pourquoi cela ?
Je ne suis pas prudente sur l'emploi du terme de colère. Je constate que les acteurs, dans leur quasi-globalité, ont brusquement utilisé ce mot « colère », alors que dans d'autres temps, on aurait dit lutte sociale. Donc, je m'interroge
sur le pourquoi... Vous le considérez comme péjoratif, ce terme ?
Ou pas, psychologique ?
Pas du tout. Je considère qu'on change de registre par rapport à ce qui était le vocabulaire classique des luttes sociales en France, que ça dit quelque chose sur les phénomènes de haute turbulence dans lesquels nous sommes rentrés et qui amènent tous les acteurs à user de mots nouveaux parce qu'ils ont du mal à décrire ou en tout cas conceptualiser ce qu'il advient.
8h50 sur France Info, on est ensemble jusqu'à 9h, on retrouve Solène Cressant pour l'info.
Les routiers ont commencé leur blocage à l'appel de l'une de leurs organisations. Une quinzaine de points à travers la France, comme l'A4 en Seine-et-Marne ou l'A1 près d'Arras. Ils protestent contre la hausse d'une taxe sur le gazole. Une manifestation en pleine grève des transports publics contre la réforme des retraites. Un TGV sur 6 annoncé, un TER sur 10 et à Paris très peu de métro. Cela doit durer au moins jusqu'à lundi avant une nouvelle journée de mobilisation mardi. La SNCF demande même aux voyageurs de ne pas prendre de train lundi en Ile-de-France. L'affluence sur les quai peut être dangereuse. Willy Bardon, hospitalisé en réanimation à Amiens, à l'annonce de sa condamnation aux assises de la Somme, il a avalé un produit. Selon le procureur, il est dans un état grave. Il est condamné à 30 ans de prison pour enlèvement, séquestration suivie de mort et le viol d'Élodie Kulik. Son avocat prévoit de faire appel. Un Saoudien en formation militaire aux États-Unis a tué 3 personnes dans une base aéronavale de Floride. La police l'a abattu. L'assaillant venait de publier des messages anti-États-Unis sur Twitter. Et puis on s'approche des 7 millions d'euros de promesses de dons pour le Téléthon. 33e édition de cette levée de fonds pour lutter contre les maladies rares. Un numéro à retenir ce week-end, le 36-37. Près de 86 millions d'euros récoltés l'année dernière.
France Info. Et tout est plus clair.
Le 8:30 France Info avec Myriam Ankawa, avec Daniel Tartakovsky, avec Pascal Perrino. Pascal Perrino, on a vu jeudi lors de cette journée très suivie de mobilisation, de manifestation à Paris, encore des actes de violence, encore des actes de casse, également un cas filmé d'apparente violence policière. C'était pas une journée de mobilisation des Gilets jaunes, donc ça semble un peu déconnecté des Gilets jaunes, mais on a l'impression désormais qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation suivie en France, il y a des dérapages, il y a des violences. Est-ce qu'elles découlent de tout ce dont on a parlé? Est-ce qu'elles, d'une certaine manière, décrédibilisent ou handicapent le mouvement et les revendications?
Alors ça peut, lorsque ces violences sont répétées, contribuer à discréditer le mouvement, ou du moins à abîmer, à entamer l'image positive qu'il peut avoir dans l'opinion. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, qui était extrêmement accueilli positivement au début, a connu une érosion, et parmi plusieurs facteurs, il y en a d'autres, il y avait en effet cette violence récurrente. Cette violence récurrente, elle est due à ce type de mouvement social qui parfois n'a pas l'encadrement qu'avaient les anciens mouvements sociaux. Cependant, dans les défilés auxquels on a pu assister le 5 décembre, on a vu qu'avec les appareils syndicaux, les services d'ordre réapparaissaient et que l'on avait donc une violence qui était une violence tout de même globalement moins importante que dans d'autres manifestations. Et la violence, elle est venue essentiellement de ce groupe de Black Bloc qui s'est positionné
boulevard Magenta.
Boulevard Magenta, en avant de la manifestation, qui a retardé d'ailleurs le développement du défilé et qui maintenant, oui, est tout à fait symptomatique de cette violence qui est issue de minorités actives.
Mais plus généralement, au-delà des Black Blocs, vous montrez, Daniel Tartakovsky, dans vos analyses, dans vos ouvrages, qu'au fond, avec le mouvement des Gilets jaunes, on a retrouvé l'idée que la lutte peut payer. Mais il y a une autre idée qui s'est installée dans l'opinion, c'est que la violence peut payer.
Non,
et ça fait quand même une rupture.
J'ai pas du tout dit qu'avec les Gilets jaunes, on avait retrouvé l'idée que la lutte paye. Je disais que nous sommes dans un pays où, parce que notre État social a été le produit d'une double révolution de la culture de mobilisation 36-46 et de la culture de régulation, l'une par l'autre et l'une pour l'autre, on avait ancré dans notre histoire, ça recoupe partiellement ce que vous disiez, l'idée que la lutte paye. Ça, c'est ancré dans la conscience politique française et en tout cas dans celle du mouvement syndical, dans ses différentes composantes. Je disais simplement qu'avec l'intervention d'Emmanuel Macron en décembre de l'an dernier, à chaud, en plein dans la crise, au sortir du troisième acte, qui effectivement a été d'une violence inattendue,
le 1er décembre dernier.
On a pu... enfin, je veux dire que ça a contribué à faire monter l'idée que ça n'était plus la lutte qui payait, mais la violence qui payait.
Aujourd'hui, dans ce mouvement social, la violence, elle viendrait fragiliser ou même décrédibiliser le mouvement?
Ne vendons pas la peau de l'ours, etc., etc. C'est vrai que j'étais dans la manifestation au niveau du groupe de tête, donc nous n'avons pas avancé pendant plusieurs heures. Il y a aussi une stratégie de maintien de l'ordre qui est absolument contraire avec ce qu'avait été pendant très longtemps les stratégies du maintien de l'ordre dans Paris, qui aboutit à créer des NAS. Et c'est vrai que quand on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui piétinent, surtout quand il fait froid, et qu'il y a une NAS, alors bien sûr, il y a le problème des Black Blocs, mais
la police en France pourrait connaît son métier. D'une certaine façon un peu cyniquement de cette violence.
Pardon ?
Le gouvernement pourrait jouer d'une certaine façon cyniquement de cette violence pour, au fond, jouer l'opinion contre la violence.
C'est tentant et dangereux.
Pascal Perrino, votre ouvrage parle de démocratie fragmentée, on parle parfois de France fracturée, votre collègue confrère Jérôme Fourquet parle d'archipel et de déconnexion donc entre le peuple et les élites. Emmanuel Macron veut qu'on reste optimiste, mais il y a de quoi être quand même un petit peu pessimiste. Il y a également le succès des partis extrêmes, des infox ou fake news. Est-ce qu'on est aujourd'hui face à une crise démocratique majeure?
Ah oui, on est face à une crise démocratique qui ne date pas d'ailleurs d'aujourd'hui. On voit bien au fond que le système de démocratie représentative articulé sur un État social qui avait les moyens de la redistribution très importante qui a eu lieu pendant les décennies 60-70, eh bien ce système est un peu en bout de souffle. On est peut-être dans une fin de cycle et on voit très bien ce qui disparaît. ce qui s'érode. On voit moins bien ce qui est en train. Voilà, on voit moins bien ce qui est en train de s'inventer. Et donc, oui, Jérôme Fourquet décrit très bien, lui, cette fracture sociale, culturelle, territoriale qui traverse le pays. Dans mon livre, je m'efforce de travailler plutôt sur le politique et de montrer comment les différents visages de la démocratie représentative issue des urnes, la démocratie manifestante, la démocratie de type participatif que l'on cherche peu à peu à installer au plus haut niveau, à savoir au niveau national, eh bien ces démocraties elles-mêmes sont désarticulées et ne parlent pas tout à fait le même langage et ont du mal à s'articuler les unes aux autres.
Vous plaidez d'ailleurs pour un peu plus d'association du citoyen à la décision politique. Daniel Tartakovsky, pour terminer, dans tous les conflits sociaux, au fond, les deux parties veulent toujours finir par sortir par le haut. Il ne faut pas qu'il y ait d'humiliation. Aucune partie ne doit sortir humiliée. Comment vous voyez, au fond, la sortie de crise? Est-ce que déjà vous pensez que ça va durer? Et comment sortir de là?
Vous savez très bien que je ne réponds jamais aux questions sur l'avenir. Bon, il est clair que nous sommes partis pour un temps qui n'est pas tout à fait court. De là à vous donner la date de la fin du conflit, je n'en ai pas la moindre idée. J'ose espérer qu'on soit dans la logique que vous énoncez. Il est clair que ça n'est pas ce qui s'est passé pendant le dernier conflit de la SNCF, que Emmanuel Macron a eu le sentiment avec ce conflit qu'il mettait à bas, ce qui était un petit peu quand même un bastion préservé du mouvement syndical et que ça a produit les effets qu'on sait.
Merci, merci à tous les trois, Myriam Onkawa, Daniel Tartakovsky et Pascal Perrineau. On se retrouve demain avec la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuel Wargon. Bonne journée à tous. Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info, Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.